Nous, Yvonne et Jonathan, si vous voulez vous lever, s'il vous plaît, vous pouvez les saluer. Bienvenue, félicitations. Welcome, Jonathan. Après quelques mois de mariage, Jonathan comprend le français parfaitement. Il n'y a pas besoin de traduction. Il va suivre. Just do this, John. Yes. Yes. OK. Good. Wonderful. Est-ce que vous avez été béni dimanche dernier avec Tony Anthony? Quelle passion pour l'Évangile, n'est-ce pas? Quelle passion! J'ai été béni vendredi soir, j'ai pu assister à la conférence samedi. Ceux qui n'étaient pas là, vous avez manqué le meilleur, bien honnêtement. Il nous réconciliait avec l'évangélisation, nous stimulait. Déjà cette semaine, j'ai saisi des opportunités, j'étais plus « sharp », comme on dit en français, pour pouvoir juste partager ma foi, semer aussi l'Évangile. Je voulais vous adresser un mot d'encouragement aussi, parce que j'ai entendu quelques commentaires de personnes qui, vous aviez des invités, vous aviez des gens de la famille, des gens que vous aimez, peut-être qui sont même ici ce matin. Alors, on est entre nous, vous avez juste à boucher vos oreilles. Mais vous aviez des invités et certains d'entre vous, vous êtes partis puis vous avez reçu des commentaires des gens de la famille, soit qui avaient été offensés. Écoutez, il manquait juste les cris de l'enfer, là. Dans son graphique le vendredi soir. Il me semble que j'entendais les cris, il manquait juste ça dans le PowerPoint. Et donc, peut-être que vous avez eu des commentaires négatifs de gens qui ont pu être offensés d'une manière quelconque, des réactions. Et ça peut vous décourager. Faites confiance au Seigneur. Vous avez été confronté avec une attitude complètement fermée. Rappelez-vous votre attitude pendant des années. Pendant des années, ma mère a prié pour Hugo et moi. Notre cœur était de pierre. On était de glace face à l'Évangile. Elle ne pouvait pas aborder cela. On grimpait tout de suite dans les rideaux. Faites confiance au Seigneur, d'accord? Parce que j'ai entendu des gens qui trouvaient ça lourd. Priez pour vos familles. Intercédez. Faites confiance à la bonté de Dieu. Et continuez à ouvrir la bouche. Combien de personnes cette semaine ont saisi une opportunité que normalement vous n'auriez peut-être pas saisi, puis vous avez décidé de passer à l'action un petit peu? Merci Linda, on est deux. Non, on est trois, c'est bon. Quatre. Quelques autres personnes? On vous a remis des flyers, il y en avait au moins 100 à distribuer. Combien l'ont remis à quelqu'un d'autre? Confessez-vous, c'est le temps, c'est le confessionnal. Eh boy, ils sont tous chez vous. Il vous reste une semaine, d'accord? Dans une semaine, c'est passé date, c'est plus bon. Il faut aller chercher d'autres traités et les remettre. Faites juste semer la parole de Dieu. J'ai remis ça à la dame qui me coupe les cheveux à chaque mois. Puis on discute à chaque fois, elle pose des questions sur le ministère pastoral, tout ça, mais on se rend pas vraiment à l'Évangile. Elle est tellement gentille, tellement fine. Ma femme trouve que j'ai de l'allure quand je sors de là. Je l'ai remercié, puis j'ai dit, écoute, j'ai quelque chose pour toi, je veux juste te laisser ça, puis on en jasera une autre fois. Il y avait un petit malaise, c'est certain, mais chaque fois que je me rends sur le terrain de l'Évangile, on s'en va ailleurs. Alors, je lui ai laissé ça à lire, puis on va pouvoir en jaser la prochaine fois. Je veux vous encourager, soyez pas découragés par les réactions que vous avez vues. Essayez de lire au-delà des réactions et de voir qu'il y a un combat spirituel qui est en train de se livrer là, d'accord? Alors, persévérons, semons la bonne nouvelle. Je tenais aussi à vous mentionner que je fais partie des heureux bénis avec Alexandre, avec Cynthia, avec Danny. Et il y a quelques personnes ici de Québec qui sont ici spécialement pour ça. Cette semaine, on va être aux États-Unis à une conférence « Together for the Gospel » avec des gens comme John Piper, Al Mohler, R.C. Sproul, John MacArthur, C.J. Mahaney, Tabithi Anibwile. Je ne pense pas que celui-là, vous le connaissez. Mais on va être à l'extérieur pour la semaine. Si vous voulez prier pour nous, c'est un temps où on s'en va se placer. Nous allons nous placer sous le ministère de la parole de Dieu. Personnellement, voilà à peu près 6 ans maintenant, je pense. Dieu s'est servi de John Piper dans une de ses prédications pour amener un réveil tellement béni dans mon cœur. Depuis ce temps-là, je surfe sur cette vague-là. Je suppliais Dieu depuis 3 ans de venir faire du ménage dans mon cœur et j'y arrivais pas. C'était comme des confessions hebdomadaires. Et c'est pas parce que c'est John Piper, c'est parce qu'il a prêché l'Évangile, c'est tout. Et Dieu, dans sa grâce, a brisé mes résistances. Je vous partagerai ça peut-être un jour. Puis je pleurais comme un bébé, puis j'avais François Turcotte, puis Stéphane Gagné de l'autre côté, qui étaient chacun là, et puis ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Ouais, OK, c'est bon, là, mais... Puis par respect, ils n'ont pas dit un mot, mais plus tard, ils m'ont dit, qu'est-ce qui s'est passé, Yannick? C'était Dieu. C'était Dieu qui me touchait encore une fois avec l'Évangile et qui me libérait enfin. Alors, c'est bon pour des pasteurs d'aller là. On va être 7 000, il y a 7 000 inscriptions. La majorité, ce sont des ouvriers et nous avons besoin de ça. Alors, si vous voulez prier pour nous cette semaine, Dieu va bénir l'Église à travers ce qu'il va faire dans nos cœurs cette semaine, à travers ses prédications. D'accord? On va aller ensemble dans un mot de prière. Ô Seigneur Jésus, combien tu es précieux. Combien tu es précieux pour moi, Seigneur. Et après 20 ans de vie chrétienne, je peux dire, Seigneur Jésus, que si tu es encore précieux pour moi, c'est à cause de l'œuvre de ton esprit dans mon cœur. Parce que de mes propres forces, j'aurais quitté, Seigneur, non seulement le ministère, mais l'Évangile. Tu es fidèle, Seigneur, pour produire des réveils spirituels là où le péché nous a engourdis et endormis, Seigneur. Sois béni. Seigneur Jésus, nous venons dans la prière parce que nous croyons que c'est ton esprit qui fait la différence dans les cœurs. Seigneur, je m'avance ce matin, j'ai été moi-même touché, édifié, bouleversé par ce passage. Mais je sais, Seigneur, avec une conviction profonde, que la meilleure des prédications et le plus grand des prédicateurs ne saurait faire la différence, Seigneur. Alors, c'est humblement que je viens te demandant de venir faire une œuvre puissante par ton esprit au milieu de nous. Aide-nous, Seigneur, à être émerveillés par la beauté de l'Évangile. Et ceux au milieu de nous, Seigneur, qui n'ont pas encore été saisis par Jésus-Christ, saisis-les, Seigneur. Que dans la passion de cette femme, Seigneur, qui était prête à toutes les extravagances, ils saisissent ton amour pour eux, Seigneur. Que celui qui est découragé et abattu soit relevé ce matin. Que celui, Seigneur, au milieu de nous, qui est à présent un disciple raisonnable, est tellement sage et qui calcule chacun de ses pas, Seigneur. Viens le saisir et viens lui donner de la passion pour toi, Seigneur. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen. Alors, ce matin, on va regarder ensemble les versets 1 à 16 dans Matthieu 26. Si vous êtes avec nous pour une première fois dans cette église, généralement, nous avançons en exposant des Écritures, c'est-à-dire que nous avançons systématiquement à travers un livre des Écritures. Dans le passage que nous regardons ce matin, il y aurait plein de choses à dire, mais je veux m'arrêter sur l'histoire de deux individus qui vont attribuer une valeur différente à Jésus-Christ. Une valeur diamétralement opposée. Deux personnes qui accordent une valeur différente à Jésus. Alors, avant de regarder leur histoire à eux, j'aimerais ça vous poser une question pratique. Combien vaut Jésus-Christ pour vous? Si j'étais prêt à vous donner 10$ pour que vous reniez la foi, est-ce que Jésus-Christ vaut 10$ pour vous? Pas assez. 15$. 15$. Est-ce que Jésus vaut 15$ pour vous? Si je mettais 20$ de plus, 35$. 35$, vous me laissez Jésus-Christ. Vous me le livrez. 55$? Si je vous faisais tout de suite un chèque de 1000$. 1000$ et vous abandonnez la foi. Je sors un chèque ce matin. Et je vous fais un chèque à votre nom personnel de 100 000$. Êtes-vous prêt à me livrer Jésus? 1 000 000. Tout le monde a son prix, come on. 1 000 000. Je vous fais un chèque d'1 000 000$. Je sais que c'est terrible de dire ça comme ça, d'accord? Je sais que c'est terrible de le dire comme ça, et pourtant ceci se reflète dans nos vies personnelles. Et dans le passage de ce matin, on voit deux individus qui attribuent une valeur complètement différente à Jésus-Christ. Alors, d'une part, on a cette dame qui est probablement Marie, la sœur de Marthe et de Lazare. Et cette dame-là vient auprès de Jésus et elle veut lui rendre hommage. Alors, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va casser l'ouverture d'une bouteille de parfum pour verser sur la tête de Jésus un parfum d'une grande valeur. Les historiens, ça ne vient pas de moi, les historiens nous disent que ce parfum valait tellement cher que ça valait à peu près l'équivalent d'une année de salaire pour un ouvrier. Je ne sais pas quel salaire vous faites. Combien ça fait un ouvrier? C'est quoi, 25, 30 000, 40 000 $? Je ne sais pas combien vous faites. Une année de salaire. Cette femme-là brise le vase de parfum et verse ça sur la tête de Jésus. Alors, d'une part, on a cette dame qui est prête à une extravagance semblable. Si je veux le chiffrer, comme je viens de le faire avec vous, disons que ça vaut au moins un an de salaire. Jésus vaut au moins un an de salaire pour elle. D'autre part, un tout petit peu après, on a un des disciples de Jésus. Et là, je sais, Judas, c'est le traître, Judas, c'est le gars tout croche, c'est le méchant, c'est le vilain. Non, c'est pas si simple que ça. Judas, c'est le gars qui a placé sa confiance en Jésus, qui a essayé Jésus et qui a été déçu. Est-ce que j'ai le droit de le dire comme ça? Judas, c'est le gars qui a essayé Jésus. 3 ans, quelque chose comme ça, il a marché à la suite de Jésus, puis il a dit, je pense que vraiment j'ai trouvé le Messie, c'est extraordinaire. Et on ne sait pas exactement ce que Judas attendait de Jésus, mais je veux dire, il a été fair avec lui. Il l'a suivi pendant 3 ans. Pendant 3 ans, il a écouté ses enseignements, il a vu Jésus faire des miracles. C'est un disciple de Jésus déçu. C'est ça, Judas. Je ne sais pas ce qu'il attendait de Jésus, mais Jésus n'a pas livré. Êtes-vous d'accord avec moi? Jésus n'a pas livré ce qu'il attendait. Et après 3 ans, Judas étant déçu de la personne de Jésus-Christ, est prêt à faire une vente de feu. Il s'en va voir les ennemis de Jésus, et puis il leur dit, regardez bien ce qui est écrit dans le passage, il leur dit, combien vous êtes prêts à me donner? C'est une vente de feu. Il n'a même pas arrêté un prix dans son esprit. Je veux dire, ils se sont fait avoir. Il aurait pu donner 10 pièces d'argent, puis il aurait eu le deal. C'est là qu'on est rendu dans l'expérience de Judas avec Jésus. Dites-moi combien vous me donnez. N'importe quoi, ça va faire l'affaire. Parce que moi, Jésus, j'ai essayé. J'ai essayé, Jésus. Ça ne marche pas. Maintenant, l'ironie, évidemment, puisque Dieu est souverain dans toutes ces choses. C'est 30 pièces d'argent qui lui est donné. Et 30 pièces d'argent, selon le livre d'Exode, dans Exode 21, c'était la valeur d'un esclave. S'il arrivait un accident et qu'une de mes bêtes abîmait au point de tuer votre esclave, je sortais 30 pièces d'argent, je vous donnais ça, puis on était quitte. Alors, aux yeux de Judas, à ce point-ci, Jésus vaut le prix d'un esclave. Et pour le prix d'un esclave, il est à vous, c'est correct, je vous organise ça. On va pouvoir se débarrasser de lui, il n'y aura pas de problème. Est-ce que vous comprenez pourquoi je vous demande combien vaut Jésus pour vous? D'une part, il y a cette dame pour qui Jésus n'avait pas de prix. Je pense que c'est ça qui est illustré par cet acte passionné qu'elle va poser. Elle était prête à faire toutes les folies du monde pour Jésus-Christ. Et d'autre part, il y a Jésus qui a marché pendant plusieurs années avec... il y a Judas qui a marché pendant plusieurs années avec Jésus. Et pour lui, Jésus, n'importe quoi, donnez-moi ce que vous voulez, ça fait l'affaire. Alors, je vous repose la question. Je ne sais pas combien... Ça fait combien de temps que vous connaissez Jésus-Christ? Moi, ça fait 20 ans cette année. Combien vaut Jésus-Christ pour moi après 20 ans de marche avec lui? Est-ce qu'il vaut encore un an de salaire? Est-ce que je suis prêt encore à faire des folies pour lui? C'est un an de salaire. Je comprends que c'est bête de le dire comme ça, mais pensez-y un instant, là. Soyons concrets. Cette bouteille-là représentait une année sabbatique. Ça ne vous tente pas? Je dirais, je peux vendre cette bouteille-là, puis partir quelques mois dans le sud avec mon épouse. C'est mon hypothèque. C'est les super rénaux que mon épouse attend depuis des années. Évidemment, Esther n'attend pas 100 000 $ de rénaux, mais tu sais, la salle de bain qui est finie, la salle de lavage, les armoires de cuisine. C'est ça qu'il y a là, là! C'est bête de le dire comme ça, mais quand cette dame pose ce geste, c'est pas, je veux dire, on n'est pas dans un film à Hollywood, là. Il y a quelqu'un qui a acheté ce parfum-là, qui a sacrifié l'équivalent d'un an de salaire. Pourquoi? Pour verser du parfum. Je ne mettrais pas 30 piastres sur une bouteille de parfum. Du parfum. C'est correct, les fleurs, elles fanent, puis après ça, il y a d'autres parfums, c'est tout. Mais c'est concret, c'est de l'énergie, c'est de l'argent, c'est du temps qui est représenté à travers cette bouteille-là. C'est très concret dans son esprit. Oui? Combien vaut Jésus-Christ pour vous aujourd'hui? Et remarquez que même les autres disciples ne comprennent pas tout à fait ce qu'elle fait. Hein? Alors, il y a Judas qui, OK, lui, c'est le vilain, puis il y a cette dame. Mais il y a les disciples aussi qui sont là, puis ils ne comprennent pas trop. Les autres disciples n'arrivent pas à saisir. Matthieu prend le temps de dire, tous les autres disciples regardent ça, puis ils disent, c'est bizarre. Maintenant, tous les disciples de Jésus n'auraient pas vendu Jésus, d'accord? Ils aiment Jésus, ils le suivent, ils vont vivre des choses pour lui, ils sont prêts à le suivre assez loin. Donc, ces gens-là l'aiment. Il y a juste Judas qui aurait vendu Jésus. Mais les autres disciples sont là, ils regardent ça, puis ils disent, c'est du gaspillage. C'est du gaspillage, littéralement. Regardez le verset 8, qu'est-ce qu'il nous est rapporté ici? Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, à quoi bon cette perte? Ils regardent le geste que pose cette femme, puis ils disent, mais c'est pas raisonnable ce qu'elle fait là. Ça n'a comme pas de bon sens. C'est pas raisonnable de faire quelque chose comme ça. Ils regardent cette femme, puis ils la trouvent un peu flyée, un peu fêlée. Oui, non, non, qu'est-ce qu'elle fait là? Je veux dire, tu sais, Jésus, pense-y, fait. Jésus s'épuise jour après jour à multiplier des pains. Avec cet argent-là, il aurait pu prendre une fin de semaine de break. Non? On aurait pu aller acheter des pains pour les pauvres, puis Jésus part et prend une fin de semaine de break avec nous. Il la regarde, puis elle est comme, est excessive. Il y a quelque chose de... avec cette femme-là. C'est pas raisonnable. Parce que voyez-vous, eux, ils sont des disciples de Jésus-Christ. Ils aiment Jésus. C'est même pas une question. Mais quand même, c'est pas parce que tu aimes Jésus que tu n'es pas quelqu'un de raisonnable. C'est pas parce que tu es en amour avec Jésus-Christ que tu perds la boule. Il faut quand même être raisonnable, non? Voyez-vous, les disciples de Jésus-Christ sont en train de devenir très raisonnables. Et il regarde cette passion qui est exprimée là, puis, oh, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est pas raisonnable, ça. On aurait pu faire autre chose avec ça. Ils deviennent des disciples de Jésus-Christ qui calculent pour savoir si ce qui est fait est raisonnable. Et non seulement ils calculent dans leur propre vie parce qu'ils auraient calculé pour eux, mais ils commencent à regarder les autres autour, puis lorsqu'ils en voient une qui est un petit peu trop flyée, non seulement ils calculent pour eux-mêmes, mais ils calculent, ils regardent, ils ont une opinion et ils disent « c'est pas très raisonnable ça, ouais, c'est pas raisonnable, ils se parlent entre eux, c'est pas raisonnable ce qu'ils sont en train de faire là. » Ils sont en train de devenir des disciples raisonnable. Et il calcule ce qui est bon d'offrir à Jésus-Christ ou non. Est-ce que vous calculez? Est-ce que vous êtes des chrétiens raisonnables? C'est quand même ça. Je veux dire, il faut calculer avant de s'engager. Il faut calculer le prix. Il faut voir ce que ça va coûter, le temps, l'énergie, combien de soirs par semaine. Est-ce que vous êtes des chrétiens raisonnables? Est-ce que vous êtes devenus des chrétiens raisonnables? Moi, quand je les entends parler comme ça, je commence à voir les pharisiens apparaître. Regardez le contexte. Jésus nous rappelle le contexte, le moment où tout ceci se passe au verset 12. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Elle l'a fait pour ma sépulture. Ça, c'est le contexte, c'est le moment. Jésus-Christ est sur le point d'offrir sa vie en sacrifice. Il passe son temps à le répéter à ses disciples. Il leur dit, « Je vais mourir. » Regardez au verset 1 et 2. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Jésus se prépare à offrir sa vie en sacrifice pour nos péchés. Ça, c'est le contexte. Et les disciples sont là, puis ils regardent cette femme arriver, puis ils disent, « Il y a un peu trop de passion là-dedans, c'est pas très raisonnable. » Mais dites-moi, est-ce que le sacrifice de Jésus sur la croix était bien raisonnable, selon vous? Est-ce que ce que Jésus a fait en offrant sa vie sur la croix était bien raisonnable? Est-ce qu'on parle de la raison du Christ ou de la passion du Christ? Est-ce que c'était bien raisonnable pour un être comme Jésus-Christ de venir offrir sa vie en sacrifice pour nous? Tournez avec moi dans Romains 5, s'il vous plaît. Romains chapitre 5, verset 5. Romains 5, 5. Car lorsque nous étions encore sans force, c'est-à-dire incapables d'aller vers Dieu, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. C'est verset 6? Bien, lisez le verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Maintenant, je vais juste expliquer c'est quoi un impie. Un impie dans notre tête, c'est, je sais pas, c'est quelqu'un qui se prend avec une hache dans la rue et qui frappe sur tout le monde. Non? On ne sait plus ce que ça veut dire. Dans le langage biblique, un impie, c'est relativement simple. C'est quelqu'un qui regarde Dieu et qui dit, « Ta loi, j'en ai rien à cirer. Moi, je vais suivre ma propre loi. » Dieu est là, Dieu donne ses commandements, puis ouais, il est saint, il est parfait, c'est beau, bla, bla, bla. Moi, je vais suivre ma loi, moi, je sais ce qui est bon pour moi. C'est ça, un impie. Est-ce que vous en connaissez? C'est simple, c'est ça, un impie. C'est quelqu'un qui dit, ben s'il est là, écoute, c'est lui qui a fait tout ça, il s'arrangera avec ça, puis quand j'arriverai de l'autre bord, je m'arrangerai avec lui. Mais tant qu'à moi, je connais ma loi, elle est là, elle est dans mon cœur, je sais ce qui est bon pour moi, je vais suivre mes voies, puis Dieu, on s'arrangera avec le bonhomme de l'autre bord. Ça, c'est un impie. C'est quelqu'un qui n'a aucun respect pour Dieu, aucun amour pour Dieu, aucune crainte de Dieu, et tout cela se reflète dans sa vie parce que ça produit un être fondamentalement égoïste et centré sur lui-même, qui prend les décisions à la lumière de ce qui est avantageux pour lui-même. C'est ça un impie. J'étais un impie. Et si ce n'était pour la grâce de Jésus-Christ, je serais encore un impie et je dois confesser à ma plus grande honte que je trouve encore souvent de l'impiété dans mon cœur. Où je dis, Seigneur, on se reparle plus tard, moi c'est ça que je veux faire aujourd'hui. Et lui, je vais aller régler son compte. Ça me tente de me vautrer dans ce péché-là. C'est de l'impiété. Alors, Paul dit dans Romains 5, 6, ou 5, comme vous voulez, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un, peut-être, mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Christ est mort pour des impies. Alors, je vous repose la question. Est-ce que c'est bien raisonnable ce que Jésus-Christ a fait? Et certains d'entre vous, à cette question-là, disent, c'est Dieu qui a créé la terre. C'est de sa faute s'il y a un gâchis comme ça sur la terre. C'est pas de ma faute si je suis comme ça. Fait que je pense que c'est raisonnable. C'est à lui de réparer ses dégâts. Plusieurs d'entre vous, c'est comme ça que vous pensez. Vous trouvez ça très raisonnable que Jésus-Christ se soit offert en sacrifice parce que dans le fond, c'est de sa faute si tout est à l'envers ici-bas. Puis dans le fond, j'essaie de faire mon mieux, mais je suis pécheur, je n'arrive pas à faire mieux que ça. C'est très raisonnable ce qu'il a fait. Je pense qu'il me la devait, celle-là. Je vous le dis, plusieurs d'entre vous, vous réfléchissez comme ça. Et en ceci, vous exprimez, et chaque fois qu'on pense comme ça, nous exprimons le fait que nous ne saisissons pas qui est Dieu, qui est cet être saint, parfait et pur, et nous ne saisissons pas vraiment ce que Christ a accompli à la croix. Nous n'arrivons pas à mesurer, à saisir le sacrifice que Jésus-Christ a fait à la croix. Tournez avec moi dans 2 Corinthiens 5, s'il vous plaît, le verset 20 ou 21, ça sera à vous de décider. 2 Corinthiens 5, 20 dans ma Bible. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est la suite qui m'intéresse là, ce matin. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. L'apôtre Jean nous dit que Jésus-Christ, avant de s'incarner, de venir sur la terre, est d'abord le Fils éternel de Dieu, qui était avec Dieu et qui était Dieu. On est dans le mystère de la Sainte Trinité, d'accord? Et il était avec Dieu, il était Dieu lui-même, et il était en parfaite communion avec son Père céleste. Sans péché, pur et sans faute. Voici celui qui est venu parmi nous. Matthieu l'appelle Emmanuel, Dieu parmi nous. Il était de toute éternité avec son Père. Il s'est incarné, il est venu vivre au milieu de nous. Il était sans péché. S'il y avait eu un seul péché en lui, il n'aurait pas été le Fils de Dieu et il n'aurait pas été en communion avec Dieu parce que Dieu ne peut être en communion avec le péché. Autrement, Dieu n'est pas Dieu. Dieu, c'est un petit Dieu. Mais Dieu est saint, Dieu est pur, Dieu est parfait. Et Christ était en parfaite harmonie, en parfaite communion avec son Père. Il est venu ici sur la terre, il était sans péché. Et Dieu, dans sa bonté, l'a fait devenir péché. Quand vous lisez le cri d'angoisse qui sort de la bouche de Jésus et qui s'écrit « Père! Pourquoi m'as-tu abandonné? » Jésus-Christ a été fait péché afin que sa justice puisse m'être imputée. Mon péché à moi, mon impiété, ma rébellion, tout ce qui me fait tellement honte a été imputé à Jésus-Christ. Lui qui n'avait pas de faute, il est devenu péché afin que sa justice puisse m'être imputée à moi. Et tout cela a été fait alors que les hommes crachaient sur lui, alors que les hommes le rejetaient. Jésus-Christ est allé faire ça pour ses disciples. Est-ce qu'il y en avait un qui était là, au pied de la croix, en train de s'interposer entre les gens qui blasphémaient son nom, qui l'attaquaient pour dire « Arrêtez, c'est un juste! » Non, ils étaient tous partis. Ils avaient tout abandonné. Est-ce que vous pensez vraiment que ce que Jésus a fait, c'était raisonnable ou est-ce que c'était de l'amour pur? Alors, je vous pose la question, à combien croyez-vous Jésus-Christ évaluait la valeur de votre salut? Combien vaut votre salut, mon salut, aux yeux de Jésus-Christ. Les souffrances, l'arrestation, la crucifixion, la mise à mort, la honte, plus que cela encore, il est devenu péché. Il y a quelque chose de mystérieux qui s'est passé dans la Sainte Trinité lorsqu'il est devenu péché. Il y a eu un bris dans cette communion éternelle qu'il avait avec son Père. Et ça, c'est le prix qu'il a payé afin que nous puissions être pardonnés et sauvés. Est-ce que vous pensez que Jésus est très raisonnable? Ou est-ce qu'il nous a aimés passionnément? Alors, voyez-vous, lorsqu'on le présente ainsi, même cette bouteille de parfum qui valait quoi? Un an de salaire, c'est encore peu de choses, n'est-ce pas? C'est même pas si déraisonnable que ça, d'avoir rendu hommage à Jésus comme ça, alors qu'il se prépare à s'offrir en sacrifice. J'oserais dire que c'était la seule chose appropriée à faire, si tu avais les sous pour le faire. Mais les disciples ne comprennent pas cela encore. Plus tard, ils vont le comprendre. 2 Corinthiens 5. Regardez avec moi 2 Corinthiens 5, 14 et 15. Les disciples vont comprendre la passion, la folie qu'il y avait dans la vie de cette femme lorsqu'elle a posé ce geste plus tard. Et eux-mêmes vont vivre une vie passionnée pour Jésus-Christ. Et Paul l'exprime de manière merveilleuse dans 2 Corinthiens 5, 14 et 15. « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, c'est-à-dire Christ, tous sont donc morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » 1 Corinthiens 6, 20, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Voyez-vous, Jésus a résumé toute la loi et les prophètes à deux commandements. Le premier commandement, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. » Le second, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Les disciples voient ce que cette femme est en train de faire en rendant un hommage semblable à Jésus et disent « Oui, mais tu oublies tout ce qu'on aurait pu faire de bien aux gens. On aurait pu faire de l'humanitaire ici, là. » Frères et sœurs, notre puissance, notre passion pour aimer les pauvres autour de nous, pour faire du bien à nos ennemis, nous la puisons dans le premier commandement, dans notre amour pour Dieu, pour Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Nous la puisons dans une réponse passionnée à un acte complètement déraisonnable que Jésus a fait pour nous. Entre vous et moi, cette dame-là était mieux équipée pour prendre soin des pauvres quand Jésus serait parti que les disciples qui calculaient le prix. Comment allez-vous faire pour trouver une force pour faire du bien à un collègue de travail qui vous tombe dessus à l'année? Comment allez-vous faire pour aimer un époux, une épouse pour qui il n'y a plus de sentiments depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans? Comment allez-vous faire pour rétablir une relation avec un parent proche qui vous a tellement fait de mal? Seulement en faisant du bien aux hommes? Non. C'est lorsqu'on se tourne vers Jésus-Christ et qu'on réalise la passion qu'il a déployée, à quel point il était prêt à faire tout pour notre salut, à quel point il était prêt à faire des folies pour notre salut. C'est lorsque nous tombons à genoux devant l'Évangile de Jésus-Christ. Alors nous l'aimons de tout notre cœur avec passion. Et quand les occasions viennent devant nous d'aimer un ennemi, de faire du bien à quelqu'un qui nous fait du mal, de se sacrifier, de servir pour le royaume, de me lever le matin pour aller donner du temps pour aider des pauvres, de gérer mes finances autrement pour pouvoir aider un peu plus pour la mission, pour pouvoir aider des pauvres, des causes, des situations, pour pouvoir donner du temps pour servir dans l'église, pour faire un pas de plus pour aller aider un frère qui est mal pris puis aller lui donner un coup de main. C'est vrai, Jésus n'est plus là, il n'est plus visible. Et l'amour qu'on va manifester pour les frères, Jésus vient juste de nous le dire, c'est l'amour qu'on va manifester pour lui. Mais où puiser la force pour continuer à être passionné et se dévouer lorsque ce n'est plus raisonnable de le faire? C'est en cultivant cette passion complètement folle de cette femme qui était tellement reconnaissante à Jésus-Christ. Son cœur était tellement amoureux de Christ qu'elle était prête à faire des folies pour lui. Combien vaut Jésus-Christ pour vous? En temps, en argent, en patience, en pardon, en amour, en piété, en sainteté. Combien vaut Jésus-Christ pour vous? Combien votre salut valait-il aux yeux de Christ? Cette semaine, est-ce que vous allez calculer s'il est raisonnable de faire un pas de plus pour Jésus? Ou est-ce que vous allez prendre le meilleur de vous-même pour que votre vie soit un parfum déversé sur le nom de Jésus-Christ et au nom de Jésus-Christ? On va prier ensemble. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce n'était pas raisonnable d'aimer un impie comme moi. Je n'avais rien à faire de tes lois, aucun désir de t'obéir. La dernière chose que je voulais dans ma vie, c'est d'un Dieu qui vienne gérer ma vie et me dire que telle ou telle passion est bonne ou mauvaise, bien ou mal. Je n'avais aucun respect pour toi, aucune crainte pour toi. Je suivais mes propres lois. J'étais un impie. Et dans ta grâce, Fils de Dieu, tu as quitté cette communion éternelle que tu avais avec ton Père, cette intimité parfaite que tu avais avec lui, pour venir mourir pour un injuste. Ce n'était pas bien raisonnable, Jésus, je te le dis. Et encore aujourd'hui, ma reconnaissance n'est pas à la hauteur de ce que tu as laissé, Seigneur. Tu sais, Christ, que je ne pourrai jamais te rendre tout ce que tu m'as donné. Je le dis, Seigneur Jésus, ce n'était pas bien raisonnable ce que tu as fait. Mais tu l'as fait pour moi, Seigneur. Afin que je cesse de tourner la page et de fuir mon histoire, que je puisse faire face à mes péchés et me tourner vers toi. Entrer en communion avec toi et vivre cette sainte et merveilleuse paix, Seigneur. Seigneur Jésus, je veux le déclarer aujourd'hui, tu es ce qu'il y a de plus précieux pour moi, Seigneur. Et cette semaine, je veux que ma vie soit un parfum de grand prix déversé pour toi, Seigneur, pour ton nom. Et j'aimerai les pauvres, Seigneur, je ferai du bien, je pardonnerai encore et encore, j'aimerai encore et encore, je chercherai ta face, je lirai ta parole, je t'adresserai mes prières, Seigneur, je t'amènerai mes inquiétudes, mes doutes et mes luttes, Seigneur. Parce que mon salut avait un tel prix à tes yeux, Seigneur Jésus. Le seul sacrifice raisonnable de ma part, c'est de t'offrir ma vie entière. Sois béni. Amen.